du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 26e dimanche. Alors que Jésus enseigne dans le temple, il dit aux grands prêtres et aux anciens du peuple :
Quel est votre avis ? Quelqu'un avait deux enfants, il s'approche du premier et dit : Enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. Celui-là répond et dit : Je ne veux pas. Plus tard, il regrette et y va. Il s'approche de l'autre et dit la même chose. Celui-ci répond et dit : Présent, Seigneur. Mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?
Ils disent :
Le premier.
Jésus leur dit :
Amen. Je vous dis que les percepteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu. Jean vous a apporté l'enseignement d'un droit chemin, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les percepteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et vous, en voyant cela, vous n'avez pas regretté pour finalement croire en lui. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien voilà une toute petite parabole et qui semble à première vue bien facile. Et pourtant, elle pose plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté du Père qui est Dieu ? Et en quoi les prostituées et les publicains font-ils cette volonté de Dieu et alors que les grands prêtres et les anciens, les membres du Sanhédrin, ne la font pas.
La place de cette parabole dans le récit de Matthieu peut-elle nous apporter un éclairage ?
Eh bien, d'après Matthieu, notre parabole a été dite par Jésus dans le cadre d'une discussion avec les chefs des prêtres et les membres du Sanhédrin, qui est le grand conseil de Jérusalem. Jésus vient d'entrer dans la ville de Jérusalem et il a chassé les vendeurs du parvis du temple, le parvis des païens. C'est un geste violent, mais c'est surtout un geste risqué, car il provoque ainsi directement les prêtres du temple. Les chefs, d'ailleurs, demandent à Jésus par quelle autorité il ose agir ainsi. Et en bon rabbi, habitué aux discussions d'école, Jésus va répondre par une question.
Je vous poserai une seule question. D'où vient le baptême de Jean le Baptiste ? De Dieu ou des humains ?
On sait que la prédication de Jean n'avait pas été entendu par l'élite religieuse du peuple, et que c'était au contraire les petites gens qui avaient reconnu que ce message était inspiré par Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous rapporte Luc dans son évangile au chapitre 7.
Tout le peuple, et même les percepteurs d'impôts, qui a entendu Jean, ont reconnu le droit chemin de Dieu en se faisant baptiser. Mais les pharisiens et les scribes ont repoussé le dessein de Dieu sur eux, en ne se faisant pas baptiser.
Et ce sera d'ailleurs la même conclusion que Matthieu va placer à la fin de notre parabole.
Les percepteurs d'impôts et les prostituées ont cru en Jean. Et vous, en voyant cela, vous n'avez pas regretté pour finalement croire en lui.
La parabole devrait donc nous faire connaître ce qu'est ce droit chemin, cette justice, comme la Bible l'appelle, que Jésus, à la suite de Jean, révèle par sa vie et par son message.
Qu'est-ce qui caractérise les deux fils de la parabole ? Qu'est-ce qui les distingue ?
Eh bien, l'un est d'un caractère plutôt entier et direct, sa réponse à l'invitation de son père est sans détour, « Je ne veux pas y aller ». Et son deuxième mouvement en est un de conversion. Il ne craint donc pas de changer d'avis, et on pourrait même dire de changer de vie, puisqu'il va travailler à la vigne. L'autre met les formes, répond avec politesse, présent, Seigneur. Mais pourtant son adhésion n'est que du bout des lèvres, car il n'ira pas à la vigne. Ce qui distingue ces deux fils, c'est donc non pas leur réponse verbale, mais leur réponse très concrète, la façon dont ils vont agir en accord avec la volonté de leur père.
Quelle est concrètement cette volonté du père?
Eh bien, dans la parabole, le père demande d'aller à la vigne. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans toute la Bible, la vigne de Dieu, c'est son peuple, la communauté d'Israël. Et Dieu espère que ce peuple va porter des fruits dignes de sa communion avec lui. Dieu est souvent d'ailleurs comparé comme un époux qui est amant de sa vigne. C'est ce que chante le prophète Isaïe au chapitre 5.
Que je chante le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et y planta un plant de choix. Au milieu, il bâtit une tour et y creusa un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais il n'en eut que de mauvais. La vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Il en attendait l'équité et c'est la méchanceté. Il en attendait le droit et il ne trouve que les cris des malheureux.
Oui, les prophètes vont souvent fustiger Israël, le peuple de Dieu, de ne pas donner les vrais fruits que Dieu attend de lui. Ainsi, le prophète Amos explique que des cris montent vers Dieu parce que la justice est corrompue et que les riches exploitent les pauvres.
Ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils détournent les ressources des humbles. Je connais la multitude de vos révoltes et l'énormité de vos péchés. Oppresseurs du juste, extorqueurs de rançon. Vous pressurez l'indigent en lui saisissant sa part de grain.
Jérémie, lui aussi, invective contre les prêtres et les prophètes.
Tous, prophètes et prêtres, ont une conduite fausse. Quand je veux récolter chez eux, pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier. Le feuillage est flétri.
Jean le Baptiste criera également contre le péché d'Israël.
Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Et le texte qui précède notre parabole rapporte aussi un geste de Jésus envers précisément un figuier qui est stérile.
Voyant un figuier, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien que des feuilles. Il lui dit, « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » À l'instant même, le figuier sécha.
Le geste est celui d'un prophète qui veut donner force et éclat à son enseignement. Le figuier, dans la Bible, comme la vigne, représente Israël. Ici, ce sont les chefs du peuple qui ne portent pas de fruits et qui vont rester stériles.
Pourquoi les prêtres et les anciens sont-ils comparés aux fils qui ne travaillent pas la vigne?
Maintenant, dans les passages de Marc et de Luc qui sont parallèles à notre récit, à la présence des prêtres et des anciens, on a ajouté celle des scribes. On sait que les scribes sont les spécialistes de la Torah. On pourrait donc spontanément penser qu'ils observent cette Torah et qu'ils produisent des fruits qui lui sont conformes. Mais quelques chapitres plus loin, Matthieu va justement rassembler les reproches que Jésus fait aux scribes.
Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Mais ne vous réglez pas sur leurs actes, car ils disent et ne font pas.
Cela rejoint l'avertissement lancé déjà par Jésus.
Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le règne des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père.
Et pourtant, scribes et pharisiens appliquent nombre des préceptes de la Torah. Ils versent la dîme, ils appliquent toutes les règles de purification, ils portent les franges et les phylactères. Mais Jésus nous dit qu'ils font tout cela non pas par un véritable amour de Dieu, mais pour se faire remarquer. Leur observance reste donc superficielle et n'est pas celle d'un cœur qui veut communier avec Dieu.
Ils font toutes leurs œuvres pour être remarqués. Au dehors, vous semblez juste, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et sans Torah.
Pour Jésus, en effet, on est sans Torah lorsque l'on n'en pratique pas les points fondamentaux. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui négligez ce qu'il y a de plus grave dans la Torah, la pratique de ce qui est droit et juste, la miséricorde et la fidélité.
Comment comprendre ces points que Jésus considère comme fondamentaux?
Eh bien, regardons toujours dans la Bible, le prophète Michée, 700 ans avant Jésus, va nous éclairer.
Tu dis, avec quoi me présenter devant le Seigneur Dieu? Le Seigneur Dieu voudrait-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerais-je mon premier-né pour prix de ma récolte, l'enfant de ma chair pour mon péché? On t'a fait connaître, ô homme, ce que le Seigneur exige de toi. Rien d'autre que le respect du droit, l'amour de la fidélité, la vigilance dans ta marche avec Dieu.
Oui, les prophètes ont toujours réagi fortement pour souligner que la communion avec Dieu, ce que l'on appelle l'alliance, se réalise par la pratique de la justice et de l'amour, et non pas par la multiplication des rites religieux, des offrandes et des sacrifices. Le prophète Amos s'inscrit déjà dans cette lignée.
Dieu dit, « Je déteste, je méprise vos pèlerinages. Dans vos offrandes, rien qui me plaise. Je détourne les yeux de vos sacrifices. Éloignez de moi vos cantiques, mais que le droit jaillisse comme les eaux, et la justice comme un torrent intarissable. »
Cette priorité à la solidarité et à la bonté sera constamment rappelée par les prophètes. Écoutons Isaïe et Jérémie.
« Recherchez la justice, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve, défendez le droit et la justice, libérez le spolié du pouvoir de l'exploiteur. N'opprimez pas et ne maltraitez pas l'immigré, l'orphelin et la veuve. »
Et citons enfin cette parole, cette formule d'Osée, c'est l'amour que je préfère et non l'offrande de vos sacrifices. Cette formule semble sans doute avoir été souvent sur les lèvres de Jésus, car les évangiles vont la citer en plusieurs occasions. André Chouraki, un exégète juif, notera que cette primauté de l'amour sur les rites sera comme le thème central de la prédication de Jésus. Et c'est cette pratique de la charité qui traduit justement, très concrètement, le travailler à la vigne. L'apôtre Paul énumérera les vrais fruits de cette vigne, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance. Et il précisera, en ce qui concerne ces choses, il n'est pas de loi. On ne peut agir ainsi seulement sous l'obligation de commandement et par crainte. Il faut être inspiré, mû par l'amour. Et quand Jésus dira à ses disciples qu'il est lui-même la vigne, et que chacun de ses disciples est un sarment de la vigne qui portera du fruit en abondance, eh bien là, Jésus parlera beaucoup moins de règles à observer que de communion.
« Demeurez en moi comme je demeure en vous. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui en qui je demeure et qui demeure en moi, celui-là produira du fruit en abondance. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Amen, les percepteurs d'impôts et les prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu.
Mais voilà une formule plutôt surprenante. Comment comprendre que ce sont les pécheurs et les pécheurs publics qui font la volonté du Père? Comment Jésus ose-t-il comparer les chefs des prêtres, les membres de la haute assemblée de Jérusalem, aux prostituées et aux percepteurs d'impôts? Car si l'on sait ce que ce sont des prostituées, il faut se rappeler que les percepteurs d'impôts sont considérés comme des voleurs parce qu'ils mettent dans leur poche une partie des sommes qu'ils imposent aux contribuables. Et ils sont de plus perçus comme des collaborateurs avec l'ennemi romain puisque c'est au nom de Rome qu'ils perçoivent les taxes. Ainsi, pour Jésus, ce sont des pécheurs et des pécheurs notoires qui travaillent au règne de Dieu plutôt que les chefs religieux et politiques du peuple de Dieu, plutôt que les spécialistes de l'enseignement de la Torah. Jésus oppose ces hommes qui se perçoivent comme les justes, les fidèles de Dieu, à ceux que la vie et leur fonction tiennent loin de la Torah de Dieu.
Comment comprendre cela?
Bon, il serait bien sûr surprenant de penser que Jésus fait là l'éloge de la prostitution et l'éloge du vol. Mais il constate une chose, ce sont des pécheurs qui ont cru au message de Jean. Comme ce sont des pécheurs qui trouvent dans son propre message à lui, Jésus, une espérance, un peu comme si pour être rejoint par l'Évangile, il fallait d'abord prendre conscience de son éloignement de Dieu, de notre éloignement de Dieu. Cela, les chefs des prêtres, les responsables ne sont pas en mesure de le faire. Leur genre de vie les classe comme ceux qui sont fidèles à Dieu. Ils prient en public, ils pratiquent le jeûne officiel, ils font l'aumône au su et au vu de tous. Mais, comme le dira la lettre de Jean, la première lettre de Jean, ils aiment en parole et non pas vraiment en acte. Par contre, à la prédication de Jean, les foules ont répondu, de même que des collecteurs d'impôts. Écoutons le texte de Luc au chapitre 3.
Les foules demandaient à Jean, « Que nous faut-il donc faire ?» Il leur répondait, « Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi se faire baptiser et lui dirent, « Maître, que nous faut-il faire ?» Il leur dit, « N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé. »
Mais qu'est-ce qui rend ces pécheurs publics plus ouverts à la miséricorde de Dieu que les scribes? Eh bien, j'appelle à notre aide Maurice Zendel pour nous aider à comprendre cela. Les religions, dit-il, risquent de présenter la morale comme une contrainte sans doute nécessaire, une contrainte bienfaisante, mais une contrainte. Or, le bien, pour le disciple du Christ, c'est quelqu'un, c'est une personne. Toute la sainteté du disciple de Jésus est là. Laissez vivre cet autre en nous. Cet autre qui est Jésus et qui est confié à notre amour. En Jésus, il n'y a plus de morale, il y a une mystique, il y a un mariage d'amour qui assume toute la vie et qui la transfigure. Il y a un dialogue d'amour où la morale devient « aime ». Et parce que dans ce débat où il s'agit de se construire, on rencontre une présence que l'on rencontre dans le silence de soi-même, on rencontre enfin l'amour. Cet amour que l'on cherche et que l'on cherche partout sans souvent le trouver, on le rencontre enfin. Et alors, toute la morale devient « aime ». Aime et fais ce que tu veux. C'est dans l'union avec le Seigneur qu'on va se réaliser en plénitude. En effet, s'il y a quelqu'un qui nous attend et qui nous aime, si c'est pour lui qu'il s'agit de devenir un espace de lumière et d'amour, alors toute contrainte est exclue. Mais toute exigence peut s'accomplir. Oui, l'absence de contrainte n'enlève pas l'exigence, mais c'est l'exigence de l'amour. Pour éclairer cette question, empruntons encore une réflexion à Abraham Baumgarten, un sociologue juif contemporain, mais qui a étudié tout particulièrement le temps où Jésus a vécu. Et voici ce qu'il dit dans un livre qui s'appelle « Jésus rendu aux siens », qui est un livre de Salomon Malka.
Pour un juif de l'époque de Jésus, être saint, c'est être lié à des obligations, à des restrictions. Dans le judaïsme, la sainteté est une servitude par rapport à la loi. Plus vous êtes saint, plus on vous demande des comptes. Jésus a une toute autre notion de la sainteté. Pour lui, être saint, c'est être libre. Pour un juif, dire que la sainteté se trouve dans la liberté et non pas dans la restriction, c'est une révolution.
Oui, la sainteté ne se trouve pas dans la restriction, mais dans la liberté. Et la disponibilité des prostituées et des collecteurs d'impôts s'explique sans doute par leur liberté. Ils n'ont pas d'image d'eux-mêmes à défendre, ni devant les humains, ni devant Dieu. Ils sont libres, libre bien sûr par rapport aux préceptes secondaires de la Torah, mais bien plus, celle-ci n'est pas pour eux un code de privation. Alors, ils peuvent aller à l'essentiel pour vivre davantage dans l'amour gratuit. Ils sont davantage prêts à comprendre que faire la volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord observer des règles, mais c'est entrer en communion avec lui. Seuls les cœurs qui battent au rythme de l'amour peuvent entrer dans cette dynamique de vie que propose Jésus. Les cœurs, au contraire, qui se croient justes et corrects parce qu'ils se privent, deviennent finalement durs et secs, et ils sont davantage sur la longueur d'onde de leur propre gloire aux yeux des humains par leur bonne conduite que sur la longueur d'onde de l'amour. Mais attention, les scribes contemporains de Jésus peuvent se retrouver aujourd'hui en des cœurs qui sont chrétiens, comme le dit Maurice Zendel, qui parle de ces chrétiens qui ignorent la révolution qu'a opérée l'Évangile.
Les chrétiens sont encore dominés par la législation mosaïque. Ils ne sont pas passés une révolution dont Jésus est la source. Il n'y a pas de morale chrétienne, il y a une mystique chrétienne. L'immense majorité des chrétiens ne s'en sont pas aperçus. Vous n'avez pas regretté.
Oui, dès le début de sa prédication, Jésus, comme Jean, proclame « Convertissez-vous ». Et on traduit parfois « Convertissez-vous » par « Faites pénitence ». Mais les verbes grecs « regretter » et « se convertir » ne parlent pas de pénitence. Ils indiquent, tous les deux, un changement d'attitude, un changement de façon de voir, un changement de façon de penser et d'agir. La conversion, c'est un retour au Seigneur Dieu, parce que notre regard sur lui change. Pour exprimer ce retour, le prophète Osée prenait l'image de la femme qui revient vers son époux après avoir couru après des amants. Ces amants sont les idoles qui prennent possession de notre cœur et qui le mettent en esclavage. Ces idoles ont le visage de l'argent, du pouvoir, du sexe vécu sans amour véritable, mais aussi celui, le visage de l'orgueil, de celui qui met sa fierté dans sa sainteté. Mais il est peut-être encore une autre idole plus pernicieuse. Chaque fois que nous vivons avec Dieu, comme avec un tout-puissant juge et punisseur, nous en faisons une idole. Le Dieu fort et puissant qui domine l'être humain par la crainte et qui le rend esclave, ce n'est pas le visage du Père tout aimant de Jésus. Le Dieu que décrit Osée est un Dieu amoureux de son peuple, amoureux de chacun de ses fils et de ses filles. Ce Dieu ne veut pas vaincre par la peur, mais convaincre par son amour.
Eh bien, Dieu dit, c'est moi qui vais la séduire. Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, par la miséricorde et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu me connaîtras, moi, ton Seigneur. Et là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse.
Le prophète Ézéchiel exprime aussi ce désir de Dieu de nous renouveler sans cesse.
Je vous donnerai un cœur neuf, je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et vous ferez marcher selon mes pratiques.
Jésus dira qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Eh bien, le vin nouveau est cette façon toujours neuve de regarder Dieu avec des yeux d'amant. Cette capacité de se renouveler constamment pour rester amoureux de Dieu et du prochain, de retrouver toujours la ferveur de la jeunesse. C'est être vieux que de se durcir dans ses attitudes et ses façons de penser, dans une pratique de routine où il n'y a plus d'amour. J'aime bien cette pensée de Lao Tzu. L'arbre, quand il est jeune, est souple et se ploie au vent. Quand il est vieux, il devient dur et sec et se brise sous la force des vents. la vieillesse en ce sens est synonyme de mort. Et malheureusement, il en est ainsi de nos vies et de nos amours, tout autant dans nos relations humaines que dans notre lien avec Dieu. La conversion, au sens de ce retour à l'essentiel, de ce retour à la pureté première de l'amour, est un travail sur nous-mêmes qui doit accompagner toute notre vie. L'observance des règles, même les plus belles et les plus nobles, ne vaut rien si elle n'est pas faite avec amour, et donc avec l'humilité de celui qui se sait toujours manquant d'amour, manquant à l'amour. Oh, terminons par ce très beau texte de Charles Péguy qui a très bien décrit ceux qui sont comme blindés dans leur bonne conscience parce qu'ils sont en règle avec les commandements de Dieu.
Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. On a vu les jeux incroyables de la grâce pénétrer une mauvaise âme, et même une âme perverse. Et on a vu sauver ce qui paraissait perdu. Mais on n'a pas vu mouiller ce qui était verni. On n'a pas vu traverser ce qui était imperméable. On n'a pas vu tremper ce qui était habitué. De là viennent tant de manques dans l'efficacité de la grâce, et que, remportant des victoires inespérées dans l'âme des plus grands pécheurs, elle reste souvent inopérante auprès des plus honnêtes gens. C'est que les honnêtes gens ont enfin ceux, ou enfin ceux qui aiment à se nommer tels, n'ont pas de défauts eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Les honnêtes gens ne mouillent pas la grâce.
Eh bien, le premier fils a mouillé à la grâce et à la vie. Le second, lui, s'est enfermé dans son ego impeccable et dans la mort.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou un an aux cassettes ou aux feuillets. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs. Si vous voulez utiliser notre télécopieur, c'est le numéro 256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.